nous avons vu en première partie que Jésus est la lumière du monde et que, les amis, si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, ce n'est ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, mais par Dieu seul. Nous n'avons rien, absolument rien à voir avec notre salut éternel qui est en Jésus-Christ et l'espérance que nous pouvons posséder en lui, parce que c'est vraiment lui seul qui a fait l'œuvre. Et c'est ce que j'aimerais revoir avec vous en regardant un texte ensemble dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Marc. Alors, je vous invite à prendre avec moi votre Bible. Et s'il y a un sujet ou un titre à donner à notre méditation ce matin, je dirais « Jésus veut s'approcher de moi, se tourner vers moi même pour me donner une vie nouvelle dont j'ai tant besoin. » Et c'est lui, Jésus, la lumière du monde, alors que j'étais dans les ténèbres, qui seul peut, a le pouvoir de me donner cette vie nouvelle, cette vie de lumière en lui. Alors, pour méditer cette vérité que nous allons voir au chapitre 5 de l'Évangile de Marc, on dit souvent que notre président actuel, régulièrement cantonné dans sa tour d'ivoire, si l'on peut dire les choses ainsi, est éloigné des Français, de leurs préoccupations et même de leurs besoins réels. Et si cela est vrai, c'est tout le contraire pour Jésus, dont il est dit dans la parole de Dieu un peu partout, et nous le voyons faire agir. Et en particulier, il est dit dans Actes chapitre 10 qu'il allait de lieu en lieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de force, Actes chapitre 10, verset 38, pour faire du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. C'est donc Jésus seul, rempli du Saint-Esprit, rempli de force, rempli de tout pouvoir, lui a été donné dans le ciel et sur la terre, nous dit Matthieu chapitre 28, pour guérir, pour sauver. Alors j'espère que ce matin, c'est l'expérience de foi de la majorité d'entre nous qu'il en est ainsi. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le chapitre 5 de l'Évangile de Marc. On y voit là trois miracles successifs. On ne va pas tout lire le chapitre, mais on y voit la libération de légions, un homme complètement possédé. Ensuite, on y voit la guérison d'une femme malade, mais véritablement malade. Et enfin, on y voit la résurrection d'une petite fille, mais vraiment morte. Et alors, Jésus opère avec toute la puissance qu'il a. Tout pouvoir lui a été donné pour guérir et sauver. Et si c'était vrai à l'époque de Jésus, c'est encore vrai aujourd'hui, mes amis. Si nous nous approchons de lui comme cette femme va s'approcher, cette femme qui est malade, parce que c'est le texte qui va nous intéresser, comme elle-même s'est approchée de Jésus. Et on va regarder cela ensemble, cette partie du chapitre 5 de Marc, et regarder tout l'enseignement qu'on peut en tirer pour nous-mêmes, et également les leçons que nous pouvons recevoir de ce texte, et également par la foi pouvoir s'approprier ces choses pour notre vie. C'est important. Mais je voudrais quand même dire avant de lire ce passage que ce que Marc raconte ici s'inscrit dans son intention initiale de nous montrer qui est Jésus. Et d'ailleurs, si vous tournez quelques pages avec moi, chapitre 1, verset 1, voilà. Voilà ce qui est dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et donc, tout l'évangile de Marc tourne autour de cette vérité centrale que Marc veut présenter, et tout va s'enchaîner derrière cela. Et tous les récits que Marc raconte s'inscrivent dans cette vérité principale. Il veut nous présenter Jésus, fils de Dieu, qui va servir, qui va guérir, qui va susciter la foi. Et donc, avec une pleine autorité, parce qu'il est fils de Dieu. Et il va dire donc dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné. Et si l'on a ça à l'esprit, frères et sœurs, alors notre lecture de l'évangile de Marc va être fluide. Et on va comprendre beaucoup de choses. On ne comprend pas toujours forcément si on n'a pas en tête ce contexte-là de présentation de Marc dans ce qu'il veut montrer dès le début. Et sa mission de Jésus est donc va être de s'approcher des gens, comme on le voit d'ailleurs dans les autres évangiles. Va s'approcher des gens pour leur donner une nouvelle vie. Il comprend leurs préoccupations, il comprend leurs besoins, il comprend leurs souffrances. Et le Seigneur n'a pas changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Lui qui est assis à la droite du Père, il continue à intercéder pour nous. Il comprend nos besoins, nos souffrances. La foi aussi, dans les 5 premiers chapitres de l'évangile de Marc, a toute sa place. Et puis, on voit cette autorité de Jésus qui s'exprime dans les 5 premiers chapitres d'une façon extraordinaire et croissante, parce que on le voit, avoir le dernier mot sur les maladies, sur les démons, sur la nature. Fin du chapitre 4, il apaise la tempête. Et même sur la mort, la fille de Jairus qui est ressuscitée au chapitre 5. Et donc, si vous regardez, vous jetez un œil avec moi dans la fin du chapitre 4, c'est aussi un contexte rapproché où là, Jésus va apaiser une tempête. Elle est extérieure, cette tempête. C'est la tempête de la nature que Jésus apaise avec une pleine autorité. Et donc, Marc, là, assure en quelque sorte la transition avec ce qu'il nous raconte au chapitre 5, parce qu'il parle dans ce chapitre de tempête intérieure, pas extérieure, intérieure maintenant, dans le cœur des gens. Ce sont des tempêtes que les gens eux-mêmes ne peuvent pas apaiser. Impossible. Seul Jésus peut le faire. Et les hommes et femmes aujourd'hui peuvent connaître encore aujourd'hui cela, pour lequel Jésus peut et veut nous donner la victoire. Et c'est ce que Marc veut nous montrer dans ce chapitre 5. Alors je vous invite à lire ce passage qui commence au verset 21 et je terminerai la lecture au verset 34. Jésus repart là de cette région qui était la Décapole. La Décapole, c'est une région à l'est du lac de Galilée qui comprend 10 villes gréco-romaines où il y avait une majorité de gens d'origine païenne. Et donc, il retraverse la mer de Galilée de l'autre côté pour retourner sur le territoire juif, si je puis dire les choses ainsi. Verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Donc, il part de l'est et va vers l'ouest. Où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors, vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors j'ai choisi ce miracle plutôt que les deux autres, il y en a trois dans ce chapitre, parce que on y parle à la fois de salut, mais aussi de foi. D'une manière explicite. Il dit, le Seigneur, ta foi t'a sauvé. Voilà. Dans la même phrase, il y a la foi et il y a le salut. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Peut-être on peut rappeler que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, comme nous le présente d'ailleurs toute la parole de Dieu, nous amène toujours à Jésus pour être guéri, pour être sauvé. Cela ne vient ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Si cette femme s'est approchée de Jésus, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'y a conduit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et puis Philippiens chapitre 1 verset 29 nous dit que Il vous a été donné par grâce de croire. Et donc, il n'y avait pour cette femme et pour nous tous, si nous croyons dans le Fils de Dieu, aucun mérite, aucune fierté personnelle. Mais seulement comme cette femme, nous pouvons nous mettre à genoux et nous humilier devant le Seigneur avec, dans une pleine reconnaissance pour le bénir, le louer, le remercier de ce qu'il nous a sauvés en Jésus-Christ. Alors, son histoire qui, a priori, touche d'abord la vie matérielle, puisqu'elle a été guérie, cette femme, de son mal physique, je crois, nous apprend beaucoup de choses. Et ce matin, je ne suis pas sûr, et donc je ne prétendrai pas faire le tour de la question. Il y a tellement de leçons à apprendre. Et comme dans toute la parole de Dieu, il nous faut la méditer et toujours la méditer pour en recevoir les fruits de la part de Dieu. Alors, nous la voyons, cette femme qui pendant des années, 12 ans, elle a souffert. Pendant des années. Est-ce qu'il y a dans la salle une expérience équivalente? Une personne qui a pu souffrir pendant des années sans cesse. Elle a souffert. Et elle a fini par penser que tout ce qu'elle avait fait auparavant, chercher les moyens humains pour essayer de s'en sortir, en allant de médecin à médecin, n'a servi strictement à rien. Et je crois qu'elle a fini, poussée par l'esprit de vérité, conduit par lui, à s'approcher du Seigneur Jésus. Et on connaît la suite. Maintenant. Mais je suis sûr que vous connaissiez déjà ce passage. Et je crois que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, mes amis, frères et sœurs, eh bien, nous pouvons nous identifier à elle. Dans le trajet qu'elle a pu parcourir. Et donc, si vous avez déjà rencontré le Seigneur, eh bien, quelle joie de le connaître. Et je suppose que, eh bien, après que Jésus lui ait dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal », quelle joie pour cette femme d'avoir connu le Seigneur. Et j'espère que pour nous, c'est la même chose. Quelle joie de connaître le Seigneur Jésus. Et puis, si vous en êtes encore à chercher autre chose, peut-être dans la vie antérieure, comme la vie antérieure de cette femme, essayez de chercher des solutions à droite, à gauche, pour apaiser votre conscience. Souvenez-vous de cette affirmation qui vient de la parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, voilà, avant d'aborder, de regarder d'un peu plus près eh bien, ce que dit le texte et la manière d'agir du Seigneur Jésus, peut-être on peut regarder le contexte. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Moi, ça m'a frappé quand j'ai lu et relu ce passage. C'est qu'il y avait toute une foule avec Jésus. N'est-ce pas? Vous voyez ça? Il y avait toute une foule avec le Seigneur. Et dans d'autres passages, il est dit que si cette foule suivait Jésus, c'était pour voir ses miracles. Vous voyez la motivation, l'intérêt des gens derrière tout ça. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui le suivaient. Mais combien y en a-t-il eu dont le Saint-Esprit a ouvert les yeux et le cœur dans cette histoire pour recevoir Jésus-Christ? Combien y en a eu? Une seule. Alors je ne parle pas des disciples. Et une seule. Et souvent il en est ainsi aujourd'hui. Beaucoup de personnes s'assemblent autour de Jésus. Peut-être viennent au culte, assistent à des réunions, peut-être pour se donner bonne conscience, par curiosité, pour voir ce qui s'y passe. Mais parmi eux, combien s'approchent de Jésus par la foi ? Véritablement, sont conduits par le Saint-Esprit pour revenir à Jésus d'une manière sincère, honnête. Peu. Il y en a peu. On le voit. Ce texte est, là, est révélateur d'une réalité qu'on peut connaître encore aujourd'hui. Et c'est donc face au Seigneur à chacun de s'éprouver soi-même pour savoir où il en est. Et qu'en est-il de sa foi, si foi il y a ? Le recevoir, en fait, c'est lui obéir. La foi qui sauve, c'est lui obéir. Marc chapitre 3, c'est dans les premiers chapitres, et ça va avec, dit « Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est Jésus qui parle, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est ma mère. » C'est ça la vraie foi qui sauve. Et Jésus lui dit « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. » Il avait reconnu, parce que le Seigneur Jésus lit les cœurs parfaitement ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Et j'aimerais qu'on observe la manière dont le Seigneur a agi et de là, vis-à-vis de cette femme, et de tenter peut-être de tirer quelques leçons ensemble. Je dirais d'abord que ce n'est pas tant les paroles elles-mêmes de Jésus qui sont importantes que ses motivations qui sont derrière. Lorsqu'il dit, regardez, qui a touché mes vêtements ? Il ne faut pas voir là un lien direct avec notre propre manière de réagir par hasard, voilà, quelqu'un venait nous toucher, et en plus par derrière. Alors, on ferait peut-être un geste de côté, et vous savez que, pour ceux qui ont l'expérience du métro parisien, alors tout le monde se touche. Et oula ! En heure de pointe, quelqu'un m'a touché, oula, alors je fais un pas de côté, je m'éloigne, hein. Je lève la tête, j'ai un geste de pivotement du corps, oula, c'en est assez. Non, la question posée par Jésus a un sens plus profond, vous vous en doutez, que nos propres réactions par rapport à ce genre de gestes ou de paroles. Il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre. Sa simple question va préparer cette femme à comprendre quel est le désir, quelle est la volonté de Jésus pour elle, qu'elle n'avait pas encore saisie. Pourtant, sa foi est bien là, elle est véritable. Et c'est ce qui lui fait dire d'ailleurs, regardez avec moi, verset 28, elle disait en son cœur, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Jésus connaissait cette intention. Car Jésus sait tout. Et au point que l'évangile de Marc nous le précise dans ce verset 28. En fait, la motivation, l'intention de cette femme qui est derrière. Elle disait en elle-même, voilà cela. C'était une preuve d'une foi véritable et que Jésus, par la suite, a honoré. Alors cette occasion précieuse et unique va permettre au Seigneur là, d'agir en sa faveur, en grâce et en vérité. Et ça va nous aider à comprendre ce qu'il désire et veut aussi pour nous. En tant que fils ou fille de Dieu, parce qu'il l'appelle maintenant ma fille. Elle est à lui. comme nous sommes au Seigneur, si nous avons cru sincèrement au Fils de Dieu. Oui, parce que une âme parmi des milliers a vraiment du prix aux yeux du Seigneur. Même si des centaines et des centaines autour de lui ne réagissent pas à son appel, une seule personne lui suffit. Et il voulait donc attirer sur lui et sur la foule ce qui se passe en réel avec cette femme, pour que tout le monde voit ce qui se passe. Et Jésus a aussi cette intention avec chacun de nous. Il savait que elle était arrivée par derrière, par crainte. Et vous voyez, certainement, elle savait que dans sa situation, puisqu'elle était atteinte d'une perte de sang, qui était sa maladie, eh bien, la loi de Moïse lui interdisait de toucher qui que ce soit. Car celui ou celle qu'elle aurait touché serait souillé à cause de cela. Elle le savait. Et pourtant, son audace, sa foi audacieuse, l'a conduit jusqu'à Jésus pour toucher, jusqu'à toucher son vêtement par derrière. Il y avait encore une certaine crainte qui était là. C'était une pécheresse, oui, comme nous le sommes aussi devant la sainteté de Dieu, qui venait d'être guérie par la puissance de guérison de Jésus. Et donc, il était juste d'attirer l'attention de la foule par rapport à ce miracle, pour que cette foule soit le témoin de deux choses principales. Et c'est important de le retenir pour nous-mêmes aussi, si nous sommes devenus chrétiens ou chrétiennes. D'abord, constater en cette femme non plus un cœur effrayé à la fin, non plus un cœur tremblant, mais un cœur rassuré et consolé. Jésus veut que la foule le voie. Et puis, deuxième chose, Jésus veut aussi que la foule puisse assister à son témoignage, à la gloire de Dieu, devant tous. C'est comme s'il lui disait, ne te cache plus maintenant, tu peux dire, devant tous. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Et il ne l'a pas pris par la main pour aller se cacher avec elle dans un coin, devant la foule, il dit ça. Et donc, c'est pour que cette foule puisse assister à son témoignage, à la gloire de Dieu, un témoignage public. Et ça, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, pour nous tous également. Dans le besoin, elle était venue en secret, était arrivée à la hauteur du Seigneur, avait touché ses vêtements, de manière à ce que personne ne le sache. Et vous savez que, c'est aussi une leçon, notre timidité naturelle nous conduit souvent à faire des choses en secret, surtout dans les choses spirituelles, et même lorsqu'il s'agit de nous approcher de Jésus-Christ par la foi, au point que, souvent, personne à part nous-mêmes ne le sait. Je dis qu'au fond de moi-même, j'ai la foi en Jésus-Christ, mais personne ne le sait. Et il n'y a que moi. Ou peut-être, alors, oui, je l'ai dit à une personne. Ou deux. Quelqu'un a dit très justement, ne dites jamais que vous êtes chrétien ou chrétienne si vous ne l'avez jamais témoigné publiquement. Alors ne le dites pas, si c'est pas vrai, si vous ne l'avez jamais témoigné. Oui, Jésus veut que cette femme guérie, rachetée, sauvée, se tienne maintenant publiquement devant tous et devant lui. Ah. Est-ce notre cas? Ou sommes-nous encore craintifs dans notre famille par rapport à notre témoignage que le Seigneur Jésus veut que nous donnions? Il veut qu'elle ne soit plus en train de cacher sa foi, comme c'est le cas de beaucoup. Et vous savez, cette volonté du Seigneur Jésus se traduit d'ailleurs dans les évangiles et même ailleurs par un enseignement clair sur le baptême, dont le rôle pédagogique et d'associer foi et témoignage public. Alors, moi, je dis que je suis chrétien, mais pas besoin de baptême, parce qu'il va falloir que tout le monde le sache, la famille vienne. Oh là là, non. La foi est personnelle, alors je la garde pour moi-même. Désobéissance. Marc chapitre 10, verset 32 nous dit « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est ce que Jésus dit à cette femme. Il la déclare publiquement devant le Père qui est dans les cieux. Quelle joie pour cette femme! Enfin, libéré. Ou Romains chapitre 10, verset 9. Prenez avec moi. Romains chapitre 10, verset 9, parce que je vous demande de le prendre avec moi, parce que c'est personnellement ce qui a été déterminant me concernant il y a 45 ans pour me faire baptiser. Alors, on peut relire ce texte, hein. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, que se passe-t-il ensuite? Elle entend la voix du Seigneur, la voix de Jésus. Et là, je retourne à mon texte. Et elle finit, oh là là, par croiser son regard. Parce que Jésus se retourne. Et la voit. Son regard. Le regard du Seigneur qui se tourne vers elle. Un regard plein de grâce, de miséricorde, d'amour. Et c'est ce regard qui identifie qu'elle est celle qui l'a touchée. Des yeux qui transpercent, qui pénètrent l'âme, le regard de Jésus. Peut-être ça vous rappelle à l'esprit la manière dont Jésus s'était tourné vers Pierre, l'apôtre Pierre, vous vous souvenez? Au moment où il l'a renié à trois reprises, et le Seigneur se tourne vers lui, le voit. le regard de Jésus, plein de compassion, plein de miséricorde. Il ne l'a pas condamné, mais il l'a restauré. Et de même, cette femme, après avoir croisé le regard indescriptible du Seigneur Jésus, tombe à genoux devant lui et d'un cœur plein de reconnaissance, le texte nous dit, elle lui dit toute la vérité. Elle lui dit toute la vérité. C'est ce que vous avez dit à Jésus ? Toute la vérité vous concernant ? Ah ouais ? En tout cas, elle, elle l'a fait. Alors oui, on peut se dire, mais Jésus connaît le cœur parfaitement, mieux que nous-mêmes nous le connaissons. Mais Jésus veut que nous lui disions tout, toute la vérité nous concernant. Et elle l'a dit, ça c'est incroyable, devant tous les gens qui étaient là. Sa crainte avait disparu. Et elle était, sa guérison l'avait libérée. C'est vrai pour nous, frères et sœurs ? Nous sommes libérés de cela et nous pouvons donc à Dieu dire toute la vérité me concernant ma vie passée, ce que j'ai fait, mes péchés, mes craintes, mon incrédulité, mes désobéissances. Je le dis aussi à mes frères et sœurs dans l'Église, lorsque je témoigne de ce que le Seigneur a fait pour moi, alors cette femme a dit, lui a dit toute la vérité. Elle lui avoue tout. Elle ne cache plus rien de sa vie. Elle lui confesse que pendant des années, elle avait cherché ailleurs, péché. Et là, elle se repent de son incrédulité, même si ce n'est pas explicite hein, dans le passage. C'est ça qu'il faut comprendre. Et elle dévoile en même temps ses vraies motivations derrière. Voilà, Seigneur, avant j'ai cherché ailleurs, mais maintenant j'ai compris que tu es le seul à pouvoir solutionner mon problème parce que tu es le Fils de Dieu et je crois en toi. Et donc elle lui dit tout. Et nous, est-ce que nous avons compris cela ? Au point de tout avouer au Seigneur pour recevoir de lui cette même affirmation. Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Je trouve ça formidable de pouvoir être libéré du jugement des autres, de pouvoir facilement prier dans l'assemblée parce que je sais que Jésus m'a reçu tel que j'étais et que mes frères et sœurs me reçoivent aussi tel que je suis. Alors j'ai plus de crainte. L'Esprit de vérité venait d'accomplir son œuvre dans ce cœur en détresse. Et voyez comme une seule âme peut réjouir le cœur de Jésus. C'est un peu comme le fils prodigue hein, qui était parti et voilà le père part à sa rencontre, les bras ouverts pour accueillir de nouveau son fils à la maison. Le Saint-Esprit, passe à côté de foule entière pour ne consoler qu'une âme malheureuse et lui donner l'assurance désormais de son salut éternel. Est-ce que vous en faites partie ce matin d'avoir ce même caractère que le Seigneur eh bien, fasse son chemin dans nos cœurs pour que nous soyons libérés de toutes ces craintes. J'aimerais aussi attirer l'attention sur une situation. Vous voyez qu'elle lui a dit toute la vérité. Et nous aussi, nous sommes encouragés par la parole de Dieu à dire les choses avec vérité. Lorsque dans l'Église, eh bien, nous disons que nous pouvons prier les uns pour les autres, ça c'est formidable. Mais si je peux connaître la situation de l'autre parce qu'elle l'a exposée, elle ne doit pas m'en donner une demi-vérité. Elle doit dire exactement ce qui se passe pour que je puisse prier dans le bon sens, avec efficacité. Parfois même, certaines situations demandent à ce que les chrétiens se rassemblent dans le jeûne. Oh, ça fait longtemps que ça ne s'est pas passé, ça. Peut-être il va falloir y réfléchir sérieusement. Dieu a horreur du mensonge ou des demi-vérités. Ananias et Saphira en ont payé le prix fort. Mais ce que Dieu recherche, ce sont des cœurs comme cette femme, venant à lui, s'adressant à lui dans la droiture, l'honnêteté, la sincérité. Et Dieu répond toujours favorablement à une telle attitude. Et puis, il fallait aussi que l'âme de cette femme soit amenée dans une intimité plus profonde avec le Seigneur. Ça, c'est une autre leçon. Le Seigneur ne veut pas simplement un contact éphémère. Il veut une relation avec celui qui est devenu sa fille, son fils. Une relation particulière, intime, qu'on appelle communion. Elle devait apprendre que sa place n'était plus derrière le Seigneur. Elle est arrivée par derrière. Mais devant, avec lui. Et ça, c'est une leçon que nous devons apprendre. Fier d'être devenu chrétien, dans le sens de la gloire donnée à Jésus, bien sûr. Et donc, le Seigneur m'a donné, désormais, par son esprit, la capacité de vivre pour lui et de manifester mon amour plein pour le Seigneur et pour les autres. Je ne suis plus appelé à rester derrière, mais être avec mes frères et sœurs pour avancer ensemble. Est-ce votre cas? Êtes-vous dans l'église du Seigneur, locale? Ou pas du tout, vous êtes resté en arrière. Et puis, c'est aussi notre privilège d'être appelés les fils et les filles du Seigneur. Si nous lui appartenons, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Là, j'aimerais m'arrêter là, un instant. Ta foi t'a sauvé. Le verbe en grec est un verbe conjugué au parfait. Le parfait, ça, en anglais ça existe, mais pas en français. Ça marque une action qui a commencé dans le passé et qui dure encore dans le présent. Et qui durera encore. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Sauvé au parfait. C'est-à-dire que, avant que je te le dise et que je confirme, moi Jésus, je te confirme là, peut-être ne le sais-tu pas, je veux que désormais tu aies l'assurance de ton salut, car tu avais déjà la foi avant. Et peut-être ne le sais-tu pas, alors je te le confirme. Et effectivement, cette femme avait manifesté sa foi bien avant le moment où Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée ». Elle n'a pas reçu la foi au moment où il lui a dit. Elle était présente avant. Mais Jésus veut qu'elle le sache et qu'elle en ait l'assurance. Ah ça, alors, c'est le privilège des enfants de Dieu. Beaucoup de gens disent, ah, moi, je ne suis pas sûr, hein, de mon salut éternel. Parce que je peux encore tomber, chuter. Ah, c'est vrai pour tout le monde. Mais non. Lorsque Jésus fait une œuvre, il l'a fait parfaitement. Et donc, il veut que nous sachions que nous sommes devenus une fille, un fils du Seigneur pour toujours. Et il veut que nous en ayons la certitude et l'assurance. Que nous cessions de douter ou de craindre. Tu es maintenant guéri, lui dit-il. Pardonné, réconcilié avec Dieu. Et donc tu es devenu un enfant bien-aimé. Alors qu'en est-il de ta foi? Et donc j'aimerais me résumer ce matin que ce passage nous apprend beaucoup de leçons et nous avons encore à découvrir beaucoup d'autres. Si nous lisons tout le chapitre, bien sûr. Premièrement, Jésus veut que je sache que le Saint-Esprit qui m'a conduit à lui ne me rend pas timide, mais au contraire, me remplit de force, d'amour et de sagesse. Moi qui désormais suis appelé son fils ou sa fille. Deuxièmement, le Seigneur veut me faire comprendre que la nouvelle vie qui a fait place maintenant dans mon cœur et que j'ai saisi par la foi doit être connue par un témoignage public. Ceci pour glorifier devant tous le Seigneur qui m'a racheté et sauvé. Je dois le savoir. C'est la parole de Dieu. Vais-je la mépriser? Encore et encore? Troisièmement, Christ veut m'apprendre à me laisser conduire dans la vie par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Pour être un chrétien authentique, sincère devant Dieu et devant les frères, dans un comportement où le mensonge ou les demi-vérités n'ont plus leur place. Et en professant la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15. Afin que nous grandissions ensemble à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quatrièmement, mon Sauveur veut que j'apprenne à me délecter de sa présence dans une communion maintenue, entretenue, régulièrement avec lui et avec les frères et sœurs. Dans l'église dans laquelle le Seigneur m'a conduit et m'a placé. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et enfin, le Seigneur veut, et on le voit à travers ce passage, que je possède l'assurance, la certitude, que seul donne la parole de Dieu, qu'il m'a racheté, qu'il m'a pardonné, qu'il m'a justifié, qu'il m'a réconcilié avec le Père, et qu'ainsi, cessant de douter, je vive pour lui dans la paix du cœur, mais aussi maintenant dans l'obéissance à sa parole. Alors, je peux prendre ce verset 34 pour moi-même et dire, Jésus me dit, vous pouvez le dire avec moi ça, Jésus me dit, mon fils, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Voilà, que le Seigneur nous bénisse vraiment par sa parole. Amen.